Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous mes frères et sœurs en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous donnerons la parole à notre sœur Marie-Claude Savard du Centre d'études Alain Kardec, Paix et Amour de Québec au Canada, qui terminera avec vous la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Cette lecture sera immédiatement suivie par une intervention de notre frère Pascal Merquer de la Fédération Spirite de la province de Liège en Belgique, aidé pour la traduction simultanée par notre sœur Edilane Bonfin du noyau d'études spirites Camille Flammarion de Bruxelles. Cet exposé, dont le thème était « L'énergie, lien entre la science et la spiritualité », fut présenté par notre frère Pascal lors du 12e symposium de la francophonie les 4 et 5 juin derniers à Ouégimont. En seconde partie, nous retrouverons avec grand plaisir notre très cher frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit français, qui, comme promis lors de notre précédente émission, répondra aux questions posées par nos auditeurs. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires. Si vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas, nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, ou tout simplement consulter notre site internet. Mais dans l'immédiat, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Marie-Claude nous invite à terminer la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Chapitre 28, recueil de prières spirites, cinquième et dernière partie, prières pour les malades et les obsédés, fin de l'Évangile selon le spiritisme.
Chapitre 28, recueil de prières spirites, numéro 5, pour les malades et les obsédés. Titre: pour les malades. Préface. Les maladies font partie des épreuves et des vicissitudes de la vie terrestre. Elles sont inhérentes à la grossièreté de notre nature matérielle et à l'infériorité du monde que nous habitons. Les passions et les excès de tout genre sèment en nous des germes malsains, souvent héréditaires. Dans les mondes plus avancés physiquement ou moralement, l'organisme humain, plus épuré et moins matériel, n'est pas sujet aux mêmes infirmités et le corps n'est pas miné sourdement par le ravage des passions. Il faut donc se résigner à subir les conséquences du milieu où nous place notre infériorité jusqu'à ce que nous ayons mérité d'en changer. Cela ne doit pas nous empêcher, en attendant, de faire ce qui dépend de nous pour améliorer notre position actuelle. Mais si, malgré nos efforts, nous n'y pouvons parvenir, le spiritisme nous apprend à supporter avec résignation nos maux passagers. Si Dieu n'avait pas voulu que les souffrances corporelles fussent dissipées ou adoucies dans certains cas, il n'aurait pas mis des moyens curatifs à notre disposition. Sa prévoyante sollicitude à cet égard, d'accord en cela avec l'instinct de conservation, indique qu'il est de notre devoir de les rechercher et de les appliquer. À côté de la médication ordinaire, élaborée par la science, le magnétisme nous a fait connaître la puissance de l'action fluidique. Puis le spiritisme est venu nous révéler une autre force dans la médiumnité guérissante et l'influence de la prière. Prière par le malade. Seigneur, vous êtes toute justice. La maladie qu'il vous a plu de m'envoyer, j'ai dû la mériter, parce que vous n'affligez jamais sans cause. Je m'en remets pour ma guérison à votre infinie miséricorde. S'il vous plaît de me rendre la santé, que votre saint nom soit béni. Si, au contraire, je dois encore souffrir, qu'ils soient bénis de même. Je me soumets sans murmurer à vos divins décrets, car tout ce que vous faites ne peut avoir pour but que le bien de vos créatures. Faites, ô mon Dieu, que cette maladie soit pour moi un avertissement salutaire, et me fasse faire un retour sur moi-même. Je l'accepte comme une expiation du passé et comme une épreuve pour ma foi et ma soumission à votre sainte volonté. Prière pour le malade. Mon Dieu, vos vues sont impénétrables, et dans votre sagesse, vous avez cru devoir affliger, par la maladie. Jetez, je vous en supplie, un regard de compassion sur ses souffrances, et daignez y mettre un terme. Bons esprits, ministres du Tout-Puissant, secondez, je vous prie, mon désir de le soulager. Dirigez ma pensée afin qu'elle aille verser un baume salutaire sur son corps et la consolation dans son âme. Inspirez-lui la patience et la soumission à la volonté de Dieu. Donnez-lui la force de supporter ses douleurs avec une résignation chrétienne, afin qu'il ne perde pas le fruit de cette épreuve. Prière par le médium guérisseur. Mon Dieu, si vous daignez vous servir de moi, tout indigne que je suis, je puis guérir cette souffrance, si telle est votre volonté, parce que j'ai foi en vous. Mais sans vous, je ne puis rien. Permettez à de bons esprits de me pénétrer de leur fluide salutaire, afin que je le transmette à ce malade, et détournez de moi toute pensée d'orgueil et d'égoïsme qui pourrait en altérer la pureté. Titre: Pour les obsédés. Préface. L'obsession est l'action persistante qu'un mauvais esprit exerce sur un individu. Elle présente des caractères très différents, depuis la simple influence morale, sans signe extérieur sensible, jusqu'au trouble complet de l'organisme et des facultés mentales. Elle oblitère toutes les facultés médianimiques. Dans la médiumnité par l'écriture, elle se traduit par l'obstination d'un esprit à se manifester à l'exclusion de tout autre. Les mauvais esprits pullulent autour de la terre par suite de l'infériorité morale de ses habitants. Leur action malfaisante fait partie des fléaux auxquels l'humanité est en butte ici-bas. L'obsession, comme les maladies et toutes les tribulations de la vie, doit donc être considérée comme une épreuve ou une expiation et acceptée comme telle. De même que les maladies sont le résultat des imperfections physiques qui rendent le corps accessible aux influences pernicieuses extérieures. L'obsession est toujours celui d'une imperfection morale qui donne prise à un mauvais esprit. À une cause physique, on oppose une force physique. À une cause morale, il faut opposer une force morale. Pour préserver des maladies, on fortifie le corps. Pour garantir de l'obsession, il faut fortifier l'âme. De là, pour l'obséder, la nécessité de travailler à sa propre amélioration, ce qui suffit le plus souvent pour le débarrasser de l'obsesseur, sans le secours de personnes étrangères. Ce secours devient nécessaire quand l'obsession dégénère en subjugation et en possession, car alors le patient perd parfois sa volonté et son libre arbitre. L'obsession est presque toujours le fait d'une vengeance exercée par un esprit et qui, le plus souvent, a sa source dans les rapports que l'obsédé a eus avec lui dans une précédente existence. Dans les cas d'obsession grave, l'obsédé est comme enveloppé et imprégné d'un fluide pernicieux qui neutralise l'action des fluides salutaires et les repousse. C'est de ce fluide dont il faut le débarrasser. Or, un mauvais fluide ne peut être repoussé par un mauvais fluide. Par une action identique à celle du médium guérisseur dans les cas de maladie, il faut expulser le fluide mauvais à l'aide d'un fluide meilleur, qui produit en quelque sorte l'effet d'un réactif. Ceci est l'action mécanique, mais qui ne suffit pas. Il faut aussi et surtout agir sur l'être intelligent, auquel il faut avoir le droit de parler avec autorité, et cette autorité n'est donnée qu'à la supériorité morale. Plus celle-ci est grande, plus l'autorité est grande. Ce n'est pas tout encore. Pour assurer la délivrance, il faut amener l'esprit pervers à renoncer à ses mauvais desseins. Il faut faire naître en lui le repentir et le désir du bien. À l'aide d'instructions habilement dirigées, dans des évocations particulières faites en vue de son éducation morale. Alors on peut avoir la double satisfaction de délivrer un incarné et de convertir un esprit imparfait. La tâche est rendue plus facile quand l'obsédé, comprenant sa situation, apporte son concours de volonté et de prière. Il n'en est pas ainsi quand celui-ci, séduit par l'esprit trompeur, se fait illusion sur les qualités de celui qui le domine et se complaît dans l'erreur où ce dernier le plonge. Car, alors, loin de seconder, il repousse toute assistance. C'est le cas de la fascination, toujours infiniment plus rebelle que la subjugation la plus violente. Dans tous les cas d'obsession, la prière est le plus puissant auxiliaire pour agir contre l'esprit obsesseur. Prière par l'obsédé. Mon Dieu, permettez aux bons esprits de me délivrer de l'esprit malfaisant qui s'est attaché à moi. Si c'est une vengeance qu'il exerce pour des torts que j'aurais eus jadis envers lui, vous le permettez, mon Dieu, pour ma punition, et je subis la conséquence de ma faute. Puisse mon repentir me mériter votre pardon et ma délivrance. Mais quel que soit son motif, j'appelle sur lui votre miséricorde. Daignez lui faciliter la route du progrès qui le détournera de la pensée de faire le mal. Puissais-je, de mon côté, en lui rendant le bien pour le mal, l'amener à de meilleurs sentiments? Mais je sais aussi, ô mon Dieu, que ce sont mes imperfections qui me rendent accessible aux influences des esprits imparfaits. Donnez-moi la lumière nécessaire pour les reconnaître. Combattez surtout en moi l'orgueil qui m'aveugle sur mes défauts. Quelle ne doit pas être mon indignité, puisqu'un être malfaisant peut me maîtriser. Faites, ô mon Dieu, que cet échec porté à ma vanité me serve de leçon à l'avenir, qu'il me fortifie dans la résolution que je prends de m'épurer par la pratique du bien, de la charité et de l'humilité, afin d'opposer désormais une barrière aux mauvaises influences. Seigneur, donnez-moi la force de supporter cette épreuve avec patience et résignation. Je comprends que, comme toutes les autres épreuves, elle doit aider à mon avancement, si je n'en perds pas le fruit par mes murmures, puisqu'elle me fournit une occasion de montrer ma soumission, et d'exercer ma charité envers un frère malheureux en lui pardonnant le mal qu'il me fait. Prière pour l'obsédé. Dieu Tout-Puissant, daignez me donner le pouvoir de délivrer, de l'esprit qui l'obsède. S'il entre dans vos desseins de mettre un terme à cette épreuve, accordez-moi la grâce de parler à cet esprit avec autorité. Bons esprits qui m'assistez, et vous, son ange gardien, prêtez-moi votre concours. Aidez-moi à le débarrasser du fluide impur dont il est enveloppé. Au nom de Dieu Tout-Puissant, j'adjure l'esprit malfaisant qui le tourmente de se retirer. Prière pour l'esprit obsesseur. Dieu infiniment bon, j'implore votre miséricorde pour l'esprit qui obsède Faites-lui entrevoir les divines clartés afin qu'il voie la fausse route où il s'est engagé. Bons esprits, aidez-moi à lui faire comprendre qu'il a tout à perdre en faisant le mal et tout à gagner en faisant le bien. Esprit qui vous plaisez à tourmenter, écoutez-moi. Car je vous parle au nom de Dieu. Si vous voulez réfléchir, vous comprendrez que le mal ne peut l'emporter sur le bien, et que vous ne pouvez être plus fort que Dieu et les bons esprits. Ils auraient pu préserver, de toute atteinte de votre part. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils, ou elles, avaient une épreuve à subir. Mais quand cette épreuve sera finie, ils vous enlèveront toute action sur lui. Le mal que vous lui avez fait, au lieu de lui nuire, aura servi à son avancement, et il n'en sera que plus heureux. Ainsi votre méchanceté aura été une pure perte pour vous, et tournera contre vous. Dieu qui est tout-puissant, et les esprits supérieurs, ses délégués, qui sont plus puissants que vous, pourront donc mettre un terme à cette obsession quand ils le voudront, et votre ténacité se brisera devant cette suprême autorité. Mais par cela même que Dieu est bon, il veut bien vous laisser le mérite de cesser de votre propre volonté. c'est un répit qui vous est accordé. Si vous n'en profitez pas, vous en subirez les déplorables conséquences. De grands châtiments et de cruelles souffrances vous attendent. Vous serez forcé d'implorer leur pitié et les prières de votre victime, qui déjà vous pardonne et prie pour vous, ce qui est un grand mérite aux yeux de Dieu et hâtera sa délivrance. Réfléchissez donc pendant qu'il en est temps encore, car la justice de Dieu s'appesantira sur vous comme sur tous les esprits rebelles. Songez que le mal que vous faites en ce moment aura forcément un terme, tandis que, si vous persistez dans votre endurcissement, vos souffrances iront sans cesse en augmentant. Quand vous étiez sur la terre, n'auriez-vous pas trouvé stupide de sacrifier un grand bien pour une petite satisfaction de moment? Il en est de même maintenant que vous êtes esprit. Que gagnez-vous à ce que vous faites? Le triste plaisir de tourmenter quelqu'un, ce qui ne vous empêche pas d'être malheureux, quoi que vous puissiez dire, et vous rendra plus malheureux encore. À côté de cela, voyez ce que vous perdez. Regardez les bons esprits qui vous entourent, et voyez si leur sort n'est pas préférable au vôtre. Le bonheur dont ils jouissent sera votre partage quand vous le voudrez. Que faut-il pour cela? Implorer Dieu et faire le bien au lieu de faire le mal. Je sais que vous ne pouvez pas vous transformer tout d'un coup, mais Dieu ne demande pas l'impossible. Ce qu'il veut, c'est de la bonne volonté. Essayez donc, et nous vous aiderons. Faites que bientôt nous puissions dire pour vous la prière pour les esprits repentants, et ne plus vous ranger parmi les mauvais esprits, en attendant que vous puissiez compter parmi les bons. Remarque. La cure des obsessions graves requiert beaucoup de patience, de persévérance et de dévouement. Elle exige aussi du tact et de l'habileté pour amener au bien des esprits souvent très pervers, endurcis et astucieux, car il en est de rebelles au dernier degré. Dans la plupart des cas, il faut se guider selon les circonstances, mais quel que soit le caractère de l'esprit, il est un fait certain, c'est qu'on n'obtient rien par la contrainte ou la menace. Toute l'influence est dans l'ascendant moral. Une autre vérité, également constatée par l'expérience aussi bien que par la logique, c'est la complète inefficacité des exorcismes, formules, paroles sacramentelles, amulettes, talismans, pratiques extérieures ou signes matériels quelconques. L'obsession longtemps prolongée peut occasionner des désordres pathologiques et requiert parfois un traitement simultané ou consécutif, soit magnétique, soit médical, pour rétablir l'organisme. La cause étant détruite, il reste à combattre les effets.
Então, assim, com essas belas palavras, nós vamos começando e vamos começar sur ce bon mot, nous allons commencer avec la conférence énergie lien entre la science et l'spiritualité. Qui sera présenté par notre bon frère Pascal Merquer du groupe de Liège. Nós vamos então começar ouvindo a palestra Energia, os laços entre ciência e a espiritualidade, proferida pelo nosso colega do grupo de Liège, Pascal Merquer.
Merci. Bonjour. Donc, je vais vous parler de lien qu'on peut trouver entre la science et la spiritualité à propos de l'énergie.
Então eu vou falar a respeito dos laços entre a ciência e a espiritualidade com relação à energia.
E peut-être arriver à la conclusion de l'impact de nos pensées, de nos émotions, de notre santé émotionnelle sur la santé de la Terre.
Então eu vou talvez chegar à conclusão sobre o impacto dessas energias na nossa saúde aqui na Terra.
Tudo é energia, en fait, dans l'univers.
Tudo é energia no universo.
Les amas de galaxies, le soleil, nos organes.
Nas galáxias, nossos órgãos, o sol.
Une cellule saine n'a pas la même énergie qu'une cellule cancéreuse.
Uma célula sã não tem a mesma energia de uma célula que tem câncer.
Et même le vide qu'il y a entre un soleil et les planètes est rempli d'énergie électromagnétique.
Et même un espace vazio entre le soleil et les planètes est cheio de énergie électromagnétique.
Tout comme il y a de l'énergie électromagnétique entre un noyau et des électrons dans l'atome.
Assim como num átomo existe energia entre o centro e os elétrons.
Si on descend en dessous des particules atomiques, on trouve à un moment donné une petite corde.
Se nós descemos ao sul de uma partícula atômica, nós encontramos ali uma corda.
Et suivant la façon dont cette corde vibre,
de acordo com a maneira como nós fazemos vibrar essa corda,
eh bien, cela donne notre matière visible, ou bien la matière noire qu'on ne voit pas.
Et isso pode dar tanto a matéria que nós vemos como aquela que não vemos, a negra.
Ou encore l'énergie qui compose la plupart de notre univers.
Ou, e ainda mais, a energia que compõe a maior parte do nosso universo.
C'est ce qu'on appelle la théorie des cordes.
Isso é o que nós chamamos a teoria das cordas.
Et c'est pour ça qu'on entend la phrase « Au début était le son ». Au début, il y a la corde qui vibre.
E é por isso que nós ouvimos a frase « No começo era o som », porque era a corda que vibrava.
Cette énergie porte le nom de plusieurs noms, certains l'appellent éther.
Essa energia tem muitos nomes, alguns a chamam de éter.
Pythagore et Aristote parlaient eux du cinquième élément.
Pitágoras e Aristóteles falaram do quinto elemento.
Il y a eu toutes sortes d'expériences pour montrer ou pas l'existence de cette énergie.
Existiram muitas experiências para mostrar a existência ou não dessas energias.
Mais certaines ont été inutiles, comme celle de Michelson-Morley en 1887.
Mais algumas foram inúteis, comme la expérience de Michelson-Morley en 1887.
Pour montrer s'il y avait l'éther ou pas, ils ont voulu mesurer un courant d'éther.
Para mostrar se havia energia ou éter ou não, eles quiseram demonstrar uma corrente.
Et ils n'ont pas mesuré le courant, donc ils ont dit qu'il n'y avait pas d'éther.
Comme ils n'ont pas mesuré cette courant, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'énergie.
Donc c'est comme s'ils avaient dit, puisqu'il n'y a pas de vent, alors il n'y a pas d'air.
Comme si ils avaient dit, ya que non tem vento, non tem ar.
Donc c'est une expérience inutile. Par contre, d'autres, comme Einstein, à partir de 1920, ont dit. L'espace sans éther est impensable.
À partir de 1920, d'autres, comme Einstein, disseram que l'espace sans éther est impensable.
Il a ajouté, la propagation de la lumière ne peut se faire que grâce à un support, et ce support, ben, c'est l'éther.
Il dit, la propagation de cette lumière ne se peut pas faire parce qu'il existe un éther, et cet éther est l'éther. Cette énergie et l'énergie est l'éther.
Et ce support de propagation.
Ce support qui fait la propagation de l'énergie est l'éther.
Et cette énergie voyage partout dans l'espace, sur les planètes.
Et cette énergie, nous l'encontrons en tous les lugares, dans l'espace, dans les planètes.
Vous voyez sur Neptune que la lumière a changé entre 1996 et 2002.
Vous voyez ici que en Neptune, la lumière a changé entre 1996 et 2002.
Les glaces polaires de Mars. Ont changé fortement entre 1996 et 1997.
La partie du gel polaire en Mars a changé. Je n'ai pas vu les dates.
Entre 1996 et 1997.
Entre 1996 et 1997.
Et ici, vous voyez un magnifique hexagone sur Saturne.
Et ici, nous voyons un magnifique hexagone en Saturne.
Et tout ça, c'est en fait la théorie de la physique hyperdimensionnelle.
Tudo isso é a teoria da física hiperdimensional.
Ça veut dire que l'énergie provient d'autres dimensions et atteint et se manifeste dans notre dimension à nous.
Isso quer dizer que a energia ela vem de outras dimensões e ela atinge a nossa dimensão aqui.
Alors, toutes les planètes du système solaire sont perturbés, mais sur Terre, nous avons plus de changements, nous avons plus de catastrophes naturelles.
Todos os planetas do sistema solar são perturbados, mas aqui na Terra nós temos mais catástrofes naturais, mais mudanças.
Donc, qu'est-ce que l'être humain fait avec cette énergie qui fait que nous, on a plus de changements et de catastrophes?
Então, o que é que o ser humano está fazendo com essa energia que faz com que nós tenhamos aqui na Terra mais catástrofes, mais problemas?
Premier élément de réponse.
Catástrofes. Perdão, gente.
Premier élément de réponse, les pensées voyagent dans l'espace et le temps.
O primeiro elemento elemento de resposta a essa pergunta é: os pensamentos viajam no espaço e no tempo.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie du centième singe.
Vocês talvez já ouviram falar da teoria do quinto macaco.
Sur une île au Japon, des scientifiques jetaient des patates sur la plage.
Numa ilha no Japão, os cientistas jogavam batatas numa praia.
Les singes allaient la laver dans l'eau douce.
Os macacos iam lavar essas batatas na água doce.
Mais un jour, une guenon de 18 mois est allée laver sa patate dans l'eau de mer.
Mas dia, um macaquinho de 18 meses, ele foi lavar a batata dele na água do mar.
Et ça avait bien meilleur goût.
E ele gostou do gosto.
Donc les autres singes ont commencé à faire pareil.
E aí os outros macacos começaram a fazer a mesma coisa.
Mais sur les autres îles japonaises, les singes ont commencé à faire la même chose à ce moment-là.
Mas nas outras ilhas, longe dali, os outros macacos começaram a fazer a mesma coisa no mesmo momento.
Alors qu'ils ne pouvaient pas se voir, ils ne pouvaient pas s'entendre non plus.
Como eles não se viam e eles também não se ouviam.
Et c'est la théorie du centième singe qui dit qu'à partir d'un certain nombre d'individus qui font la même chose.
E essa teoria então do quinto macaco que diz que a partir do momento que um número grande de pessoas fazem a mesma coisa,
la pensée devient accessible aux autres.
O pensamento se torna acessível aos outros.
On parle aussi d'égrégore que les religions ont bien utilisé malheureusement.
Nós falamos também de égrégore que as religiões infelizmente usaram bastante.
Ce sont en fait des formes pensées.
Que são na realidade formas de pensamento.
Qui sont alimentées par l'énergie mentale.
Alimentadas pela energia mental.
L'énergie émotionnelle, spirituelle.
De l'énergie émotionnelle et spirituelle.
Et bien sûr, il y a une interconnexion entre cet égrégore et nous.
Et est clair qu'il existe une interconnexion entre ces.
Nous l'alimentons.
Et ces égrégores et nous.
Nous alimentons les égrégores.
Nous alimentons les égrégores.
Et il a une influence sur nous.
Et ils ont une influence sur nous.
On parle aussi de l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung.
Nós também falamos da teoria do inconsciente coletivo de Jung.
Et enfin, point que je vais un peu plus développer, on parle aussi de champ morphique que Rupert Sheldrake a développé.
E finalmente também falamos dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake.
En résumé, cela dit que plus un phénomène se produit, et plus il est probable qu'ils se reproduisent.
Para résumer, quer dizer, a teoria seria mais quanto mais fenômeno se produz, mais ele vai se produzir.
Donc c'est une forme de mémoire qui se trouve dans un champ qui n'est pas matériel.
É uma forma de memória que se encontra num campo que não é material.
Donc les individus, nous, faisons ou pensons quelque chose d'autant plus facilement que d'autres l'ont fait avant nous.
Então, os indivíduos, nós fazemos ou pensamos alguma coisa mais fácil ainda do que fizeram antes de nós.
Et aussi que nous le faisons aussi souvent, ça devient plus facile.
E que nós acabamos fazendo frequentemente porque isso se torna mais fácil.
Alors, pour montrer l'existence de ce champ d'énergie, de ce champ de pensée.
Para mostrar a existência desse campo de energia, desse campo de pensamento.
Dougal a fait en Angleterre une expérience avec des rats.
Dougal fez na Inglaterra uma experiência com ratos.
Les a mis dans de l'eau et pour les obliger à sortir, ils avaient le choix entre deux chemins.
Ele os colocava na água e para obrigá-los a sair, eles tinham a opção de dois caminhos.
Un chemin éclairé, donc attirant, mais électrifié.
Eles tinham um caminho que era claro, mas que era eletrificado.
Et un autre chemin sombre, mais sans choc électrique.
E um outro caminho que era escuro, mas que não tinha os choques elétricos.
La première génération de rats a fait 165 erreurs.
Na primeira geração dos ratos, eles fizeram 165 erros.
Mais après la 30e génération, ils n'ont fait plus que 20 erreurs, donc ils ont appris.
Depois da 30ª geração, eles fizeram apenas 20 erros, quer dizer, eles aprenderam.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a comparé les résultats avec des rats qui n'ont pas été entraînés.
Mas o que é interessante é que eles compararam os resultados com os ratos que não tinham sido treinados.
Et ces rats-là ont fait le même taux de réussite que ceux qui étaient entraînés.
E esses ratos tiveram a mesma taxa de sucesso que aqueles que tinham sido treinados.
Donc ils avaient accès à l'information que le chemin sombre était le meilleur.
Quer dizer que eles tinham essa informação que o caminho escuro era o melhor.
On a refait l'expérience en Australie avec 54 générations de rats et bien sûr avec une souche différente de rats.
É claro que eles fizeram novamente a mesma experiência depois na Austrália com 54 gerações diferentes de rato e com uma uma raça diferente de rato.
Des rats différents. Et aussi bien, donc, là encore, aussi bien les rats qui avaient appris que ceux qui arrivaient directement dans l'expérience avaient le même taux de réussite.
Lá, a mesma coisa, os ratos que aprenderam na experiência, eles tiveram a mesma taxa de sucesso.
Ça veut dire que l'idée est dans l'air.
Quer dizer que a ideia está no ar.
À propos de l'être humain, maintenant.
Agora, a respeito do ser humano.
Poponin et Garayev, en 1995.
Poponin et Garayev, em 1995.
On fait une expérience, ils ont pris un tube et ils ont mis des photons dedans.
Ils faisaient une expérience, ils pegaram un tube et colocaram photons à l'intérieur.
Les photons, ce sont des paquets de lumière.
Os photons seriam como pequenos pacotes de luz.
Et évidemment, les photons se mettent de manière aléatoire.
Oui, claro, esses photons se espalham no espaço de maneira aleatória.
Mais quand ils ont ajouté l'ADN, c'est-à-dire la molécule du vivant la plus fondamentale en nous.
Mais aí quand ils colocaram o ADN, quer dizer, a molécula dos vivos, né, que é fundamental para nós?
Ces paquets de lumière, les photons, se sont disposés différemment.
Et esses pacotes de luz, os fótons, eles se dispuseram diferentemente.
Et encore plus intéressant.
E ainda mais interessante.
Quand ils ont retiré l'ADN.
Quando eles tiraram o ADN.
Ils ont constaté que les photons gardaient la même disposition.
Ils constataram que os fótons ficavam na mesma disposição.
Donc c'est comme si l'ADN était toujours là.
Era como se o ADN ainda estivesse ali.
C'est ce qu'on appelle l'effet de l'ADN fantôme.
É o que é chamado efeito do ADN fantasma.
Donc l'expérience veut dire que notre ADN a une influence sur la matière.
O que quer dizer que o nosso ADN tem uma influência na matéria.
Une deuxième expérience a été faite par Clive Baxter dans l'armée américaine.
Uma segunda experiência que foi feita no exército americano por Clive Baxter.
Il a prélevé du tissu humain d'une personne et l'a mis dans une autre pièce du bâtiment militaire.
Ele tirou o tecido humano de uma pessoa e o colocou num outro prédio militar.
Et il a stimulé la personne de manière émotionnelle.
E aí eles estimularam a pessoa de uma maneira emocional.
Avec des images comique, érotique, triste.
Através de imagens cômicas, eróticas, tristes.
Et il a constaté que l'ADN réagissait aux stimulations de la personne.
E constataram que o ADN reagia à estimulação da pessoa.
Comme si l'ADN était toujours relié à son donneur.
Como se esse ADN estivesse ainda ligado ao doador.
Il a refait la même expérience, mais en mettant l'ADN du donneur à une distance de 550 km.
Ils faisaient de nouveau la même expérience, mais cette fois, ils pegaram l'ADN et levaram à 550 km de la personne.
Et le résultat était le même. C'est comme si l'ADN était toujours relié au donneur.
Et le résultat était le même. Era comme si l'ADN estivesse sempre ligado au doador.
Et en plus, une horloge atomique a mesuré que le temps de réaction était nul.
Et ainda mais, à travers d'un relógio atômico, ils constataram que o tempo de reação era zéro, nada. Não teve tempo de reação.
Et encore plus intéressant, une expérience, la troisième, a été faite par Glenn Rain et Rolin McCready à l'Institut Hertzmas.
Ainda mais uma terceira experiência que foi feita por Glenn Hinn e Holly McCready no Instituto HearthMath.
Ils ont remis donc de l'ADN humain dans un tube en verre.
Eles colocaram de novo ADN humano num tubo de vidro.
Ils ont mis des personnes spécialement entraînées à la méditation autour du tube.
E em volta desse tubo, eles colocaram pessoas que eram especialistas em meditação.
Ils ont analysé chimiquement et visuellement l'ADN.
Eles analisaram quimicamente, visualmente essa ADN.
Et selon les pensées, les émotions et les intentions des méditants.
E de acordo com os pensamentos, as emoções e as intenções dos meditantes, dos que estavam fazendo meditação,
l'ADN s'enroulait ou se déroulait.
Gente,
não é
ADN,
não,
é DNA.
Desculpa.
Yeah.
L'ADN changeait de...
DNA mudava. Perdão, mas que eu já tinha falado, ADN,
mas DNA em português. DNA, em
inglês. Desculpa. Vocês tinham entendido já, né?
Sim, já.
Ok.
Selon les émotions et pensées des méditants, l'ADN s'enroule ou se déroule.
Então, de acordo com as emoções daqueles que meditavam, o DNA se enrolava ou se desenrolava.
E, enfim, on a fait une expérience sur le terrain.
E aí, finalmente, fizeram uma experiência em campo, em campos.
Dans des territoires sensibles du Moyen-Orient.
Nos territórios mais sensíveis do Oriente Médio.
Dans le cadre de l'International Peace Project in the Middle East en 1998.
No interior do projeto International Peace Project in the Middle East.
On a constaté que quand les personnes méditaient dans ces territoires-là, il y avait moins de méfaits de toutes sortes.
Eles constataram que quando as pessoas meditavam nessa área, nesses territórios, existiam menos tipos de problemas de qualquer tipo, de qualquer problema.
Moins de tirs, moins de meurtres, moins d'accidents de la circulation, moins d'admissions aux hôpitaux.
Menos tiros, menos mortes, menos acidentes de carro, menos problemas nos hospitais.
E quando eles arrêtaram a meditação, os problemas são revenus como avant.
E quando eles pararam a meditação, os problemas voltavam ao que era antes.
Il y a un autre physicien quantique, lui, qui a aussi montré l'impact de nos pensées sur le bon fonctionnement des choses.
Um outro físico quântico que mostrou também o impacto desse funcionamento no funcionamento geral das coisas.
Donc, il a observé des particules et a montré qu'il y avait une particule double qu'on ne voyait pas. Il a observé des particules et a montré qu'il y avait une particule double qu'on ne voyait pas.
Il a observé les particules et il a vu qu'il y avait une particule, un clone, que nous ne voyions pas.
Pareil pour une étoile, il y a une étoile double et il y a aussi, pour nous, un double qu'il appelle le double énergétique.
Também pelas estrelas, também havia um clone, um duplo, e que a gente não via, e que ele chamou de duplo energético.
Donc, en fait, il parle sans le savoir de l'âme du périsprit.
Sem saber, ele estava falando da alma ou do perispírito.
Et en fait, on ne voit pas évidemment parce que on est dans un système spatio-temporel différent.
E nós não vemos, claro, porque nós estamos num espaço.
Un système de temps et d'espace différents.
Un système de espace et tempo différents.
Par exemple, le disque d'un stroboscope qui est fait de blanc et de noir, de blanc et de noir.
Par exemple, un disque d'un stroboscope qui montre blanc, negro, blanc, negro.
Si ça tourne très vite, vous ne voyez que du blanc.
Si vira muito rápido, você só vê o branco.
Parce qu'on n'est pas dans le même système temporel.
Porque nós não estamos no mesmo sistema de tempo.
C'est pareil pour le temps, on croit que le temps est continu ici sur Terre.
Et nous aussi acreditamos que le temps est continu ici sur Terre.
Mais Garnier Mallet dit que le temps est discontinu, il dit qu'il est fait d'ouverture temporelle.
Mais ce scientifique, Garnier Mallet, il dit que le temps n'est pas.
Des ouvertures temporelles.
Qu'il fonctionne comme ouvertures temporelles.
Et dans ces ouvertures temporelles circule le futur.
E nessas aberturas temporais circulam o futuro,
dans lequel notre double énergétique opère.
No qual o nosso duplo energético opera.
Et Yanni Malet, donc ce physicien quantique, dit qu'il faut essayer de dialoguer avec notre double pour faire en sorte qu'il aille nous chercher les meilleures informations.
Ele diz então que é preciso dialogar com o nosso duplo para que ele vá buscar as melhores informações.
Donc, pendant la journée, nous avons plein de pensées, plein d'émotions.
Durante o dia, nós temos muitas emoções, muitos pensamentos.
Donc, nous créons plein de futurs potentiels.
Nós criamos um monte de figuras potenciais.
Et notre duplo, notre âme, perispírito,
nosso duplo, ou nossa alma, nosso perispírito,
va aller actualiser l'un d'eux.
Va ir actualizar um destes.
Mais il y a tous les autres futurs potentiels qui sont disponibles aussi pour d'autres personnes.
Mas também tem outros futuros potenciais que ficam ali disponíveis a outras pessoas.
C'est pour ça que il dit.
É por isso que ele diz.
Ne pense pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il pense te faire.
Não pense em fazer para os outros aquilo que você não pensa que eles podem te fazer.
Donc c'est extraordinaire.
Você não quer que eles possam, que eles possam te fazer.
Donc c'est extraordinaire qu'un physicien quantique dit que nos pensées sont extrêmement importantes et qu'il y a même d'autres personnes qui peuvent aller les prendre.
Então é extraordinário que físico quântico diga que nossos pensamentos outras pessoas podem ir por pegá-los.
Bon, je parle de pensée, mais les émotions aussi sont associées et en fait sont plus puissantes.
Ele fala de pensamentos, mas as emoções também, e aí elas são ainda mais potentes.
Je vais parler un peu de mon cas personnel. J'ai découvert en fait la kinésiologie qui permet de traiter notamment des émotions mal digérées.
Ele está falando do caso pessoal dele, sobre a kinésiologie qui permet de tratar
Ça permet de traiter des émotions qu'on n'arrive pas à digérer. Et grâce à des tests kinésiques, on peut retourner au moment où on a commencé à ne pas à avoir un problème avec l'émotion en question. Les tests corporels, en fait.
Les tests corporels. Você pode retornar ao exato momento onde você viveu aquela emoção.
Et le fait de découvrir quand on a commencé à avoir un problème.
E o fato de descobrir quando nós começamos a ter um problema.
Donc, quand on était enfant ou adolescent ou parfois dans le fœtus, puisque les émotions entre les mères et son enfant passent.
Quando nós éramos crianças ou adolescentes ou mesmo quando nós éramos feto, porque as emoções entre mamãe e feto passam.
Et donc ça permet de mieux digérer, de mieux passer au-dessus de cette émotion.
Então isso permite de melhor digerir, de melhor ultrapassar esse momento dessa emoção.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces mêmes tests corporels ont permis de mettre en évidence des émotions provenant de vie antérieure.
O que é também interessante é que esse mesmo teste corporal permitiu de colocar em evidência as experiências de vidas anteriores.
Donc parfois, on a une émotion qu'on n'a pas bien gérée il y a très longtemps.
Então, às vezes, nós temos uma emoção que nós não conseguimos administrar há muito tempo atrás.
Le vase de cette émotion commence à se remplir, à se remplir.
O vaso dessa emoção vai se enchendo, enchendo.
Et à un moment donné, c'est la goutte qui fait déborder le vase et on réagit de manière disproportionnée.
E aí, num momento, tem uma gotinha que faz com que o vaso transborde. E aí nós não conseguimos gerenciar essa emoção.
Donc, c'est très important de gérer ses émotions.
Então é muito importante de administrar as suas emoções.
Il y a aussi un médecin qui s'appelle Laurent Dailly et qui s'est intéressé au problème.
E também tem médico que se chama Laurent Dailly que se interessou por esse problema.
Et pour faire très court, il dit que notre cerveau archaïque ne fait pas de distinction entre une situation réelle et une situation imaginaire.
Então, para explicar um pouquinho de maneira curta, ele diz que o nosso cérebro arcaico ele não faz a distinção entre uma situação imaginária de uma situação real.
Je vais prendre deux exemples pour montrer ça.
Ele vai pegar dois exemplos para demonstrar isso.
D'abord, les scientifiques observent des loups.
Os cientistas observaram lobos.
Vous savez que les loups les plus forts mangent en premier.
Você sabe que o lobo mais forte da matilha come primeiro.
Il y avait un petit loup qui ne savait presque pas se nourrir.
E aí tinha um lobinho pequeno que não conseguia nem se alimentar.
Il a réussi quand même à attraper un gros oiseau qu'il a mangé en trois coups.
Il a conseguiu de uma forma ou de outra agarrar uma grande ave que ele comeu rapidinho.
Et en fait, les scientifiques ont dit que normalement le loup était fichu parce que
normalmente esse lobo ele tem um problema porque
parce que les trois morceaux de oiseau n'étaient pas disponibles pour donner de l'énergie à son cœur.
Os três pedaços da ave que ele comeu rapidinho não estavam disponíveis para dar a energia que ele precisava para o seu corpo.
Et en plus, son estomac est plein, donc il ne savait pas remanger.
E ainda mais, com o estômago cheio, ele não conseguiria comer de novo.
Mais le cerveau archaïque a compris cela.
Mas aí o cérebro arcaico dele entendeu isso.
Et il a commandé à l'estomac de produire beaucoup plus de sucre gastrique.
E aí ele pediu pro estômago produzir muito mais suco gástrico.
Et l'oiseau a été digéré en un temps record.
E a ave que ele tinha engolido foi digerido num tempo recorde.
Donc là, le cerveau archaïque est génial.
Nesse caso, o cérebro arcaico é genial.
Mais, dans le cas d'un autre exemple, le médecin discutait avec son patient.
Mas, num outro exemplo, médico discutia com seu paciente.
Deux frères héritent de beaucoup d'argent.
Dois irmãos que receberam uma grande herança de muito dinheiro.
L'un d'eux gère la fortune et l'autre fait confiance.
Dos dois que vai gerenciar, administrar essa fortuna. E o outro faz confiança, e se confia que o outro vai fazer bem feito.
Après quelques années, il y a un scandale financier qui éclate et l'autre ne sait pas digérer l'information.
Daí alguns anos, e há um escândalo financeiro que acontece e aquele que tinha feito confiança, ele não consegue digerir a situação.
Le cerveau archaïque fait la même chose, il a envoyé plus de sucre gastrique.
Daí o cérebro arcaico fez a mesma coisa, ele enviou mais suco gástrico.
Et la personne s'est fait un ulcère.
E a pessoa teve uma úlcera.
Parce que l'émotion n'a pas été bien digérée.
Porque a emoção não foi bem digerida.
Alors, ces pensées, surtout les émotions, ont aussi un impact sur l'autre, c'est ce qu'a montré Masaru Emoto.
Masaru Emoto demonstrou que existe também o impacto da emoção na água.
Vous voyez dans les cristaux numéro 1, 2 et 4 qui sont très beaux.
Vocês veem nos cristais 1, 2 et 4 qui sont muito bonitos.
En fait, cette eau a été exposée à de très beaux champs de diverses traditions.
Esses três cristais de água foram expostos a belos cantos de várias culturas diferentes, várias tradições diferentes.
Par contre, le cristal en bas à gauche provient d'une eau de robinet d'une grande ville.
Mas o terceiro ali vem da água da torneira de uma cidade grande.
Et vous voyez que ce cristal ne ressent pas grand-chose, il est même évité.
E aí, você vê que esse cristal ele não tem forma nenhuma e é mesmo para evitar.
Et je vous rappelle que nous sommes faits à peu près de 65% d'eau.
Não se esqueçam que nós somos feitos de mais ou menos 65% de água.
Et que sur Terre, les océans représentent 65-70% de la surface.
E que na Terra, os oceanos representam mais ou menos 65-70% da superfície.
Il a continué ses expériences en exposant un verre d'eau à un GSM ou bien à la TV.
Il continuou as experiências e ele expunha os cristais de água ao telefone celular, à TV.
Et vous voyez sur les deux photos dessus qu'il n'y a presque pas de cristaux, ça ressemble à rien du tout.
Vocês veem os dois primeiros cristais, não tem nenhuma forma, não parece com nada.
Mais, toujours sur ces gobelets d'eau près du GSM et de l'ordinateur.
Nos mesmos copinhos de água perto do computador.
En y ajoutant de l'amour et de la gratitude.
Mas quando ele colocava amor e gratidão.
En collant en fait une étiquette en marquant dessus amour et gratitude.
Simplesmente colando uma etiqueta ao copo escrito amor e gratidão.
Mais surtout pendant qu'on fait cet acte-là. De vivre l'amour et la gratitude.
Mas fazendo esse ato, claro, vivenciando esse amor e vivenciando essa gratidão.
Eh bien, ça suffit à former de beaux cristaux à partir d'une eau qui au départ n'était pas belle.
é suficiente para formar belos cristais a partir de uma água que no princípio, na mesma disposição, não estava bonita, não era bela.
Et finalement, c'est compréhensible parce que l'amour, c'est une des plus belles émotions pour donner.
Et isso é muito compreensível porque o amor é uma das mais belas emoções a se dar.
Et la gratitude est une très belle émotion pour recevoir.
E a gratidão é uma das mais belas para se receber.
Donc là, on se retrouve avec nos émotions qui influencent l'ADN, qui influencent l'eau.
E aqui então nós nos encontramos com as emoções que influenciam o DNA, que influenciam a água.
Emoções que influenciam aussi les autres, mais qui influencent aussi la matière.
Emoções que influenciam também os outros, que influenciam também a matéria.
Alors, est-ce que, en plus, nos emoções, nos pensées pourraient affecter la terre elle-même?
Será que, ainda mais, as nossas emoções, elas poderiam afetar a terra?
Et d'abord, est-ce que notre terre, est-ce que c'est qu'un bel gros caillou?
Para começar, será que a nossa terra é apenas uma grande pedra, um grande pedregulho?
Ou bien est-ce que c'est un être très évolué?
Ou será que ela é um ser muito evoluído?
Pour reprendre la classification qu'a fait Jan Zell-Lungold.
Para então retomar uma classificação feita por Jan Zell-Lungold.
Est-ce que la Terre est bêtement au niveau de l'action-réaction?
Será que a Terra está apenas no nível da ação e reação?
Donc c'est comme les lois physiques, ça tombe, c'est tout simple.
É como uma lei da física, isso cai, é muito simples.
Ou bien, en mettant plus de conscience, est-ce que c'est un stimulus-réponse?
Ou será que quando a gente coloca um pouco mais de consciência, ela se torna mais no nível de estímulo e resposta?
Si on monte encore en conscience, on a stimulus réponse individuelle.
Se a gente aumenta ainda mais um pouquinho a consciência, teremos a relação de estímulo e resposta individual.
Donc ça veut dire que chaque individu réagit à sa manière, alors que avant tout le troupeau réagissait de la même façon.
Quer dizer aqui que então cada indivíduo responde de uma maneira diferente, hein? Como antes na tropa, todo mundo reagia da mesma forma.
Niveau de conscience 4, on commence à prendre une décision.
O nível de consciência 4 é quando a gente já começa a tomar decisões.
Niveau 5, on raisonne.
O nível 5 é quando a gente começa a pensar.
Je passe de niveau et je vais au niveau 8, celui de l'éthique. Là, ça vient de l'intérieur du cœur.
Non, alguns níveis, já chegando no 8, o nível ético, quando vem no interior do coração.
Alors que pour le 4, en fait, alors que pour la raison, en fait, ça vient de l'extérieur. Là, maintenant, pour l'éthique, c'est nous-mêmes qui décidons.
Aqui, no 9, quando a gente falava da razão, isso vinha do exterior. Agora, no 9, vem do interior, é a criação.
Et enfin, le dernier niveau, celui de la co-création consciente.
Et aí, no 9, qui est la co-création. Le niveau éthique qu'il falou antes, et aqui no 9, c'est la co-création consciente.
Où est la Terre là-dedans?
Onde está a Terra nesse processo?
Il est possible que ce soit un être extrêmement évolué et qui, dans l'espace, n'a pas besoin de bras et de jambes.
É possível que seja um ser muito evoluído e que está no espaço que não precisa de mãos, de braços, de pernas.
Alors, vous connaissez que dans notre cerveau, nous avons des ondes cérébrales.
Vocês sabem que no nosso cérebro nós precisamos da razão cerebral, das ondas cerebrais.
Il y a les ondes delta qui sont celles du sommeil profond entre 0 et 4 Hz.
Nós temos as ondas delta qui sont entre 0 et 4 cycles par seconde.
Et à l'autre bout, nous avons les ondes gamma jusqu'à 45 Hz qui sont du dynamisme mental de la créativité.
Do outro lado, no outro oposto, nós temos as ondas gamma, que é onde nós temos a criatividade, o dynamisme mental.
Et bref, toutes ces ondes sont comprises entre 0 et 50 Hz dans le cerveau.
Dentro do nosso cérebro, todas essas ondas estão compreendidas entre 0 e 50 ciclos por segundo.
Et il se fait que les fréquences de résonance de notre Terre sont les mêmes.
E é incrível que a ressonância, as frequências da nossa Terra são as mesmas.
Les fréquences de résonance de l'atmosphère de notre Terre sont comprises entre 0 et 50 Hz.
As frequências, da Terra, elas estão também compreendidas entre 0 e 50 ciclos por segundo.
Donc, on peut supposer qu'il y a une forme de communication entre les deux, puisque les ondes sont les mêmes.
Nós podemos então supor que existe uma forma de comunicação entre os dois, posto que a frequência, as ondas, são as mesmas.
Et d'ailleurs, les premiers astronautes qui allaient dans l'espace revenaient malades, enfin en pas bonne santé, on va dire.
Inclusive, os astronautas que iam para o espaço, eles voltavam numa saúde não muito boa, podemos dizer.
Parce qu'ils ne bénéficiaient plus du magnétisme terrestre.
Porque eles não se beneficiavam mais do magnetismo da Terra.
Et la NASA a réintroduit dans les vaisseaux spéciaux, la NASA a réintroduit dans les vaisseaux spatiaux ces ondes de Schumann, qu'on appelle comme ça.
A NASA, ela introduziu, ela reintroduziu essas ondas dentro dos foguetes.
Et on a constaté que les astronautes revenaient en meilleure santé, donc grâce à ces ondes qui sont celles de l'ionosphère terrestre.
Graças a essas ondas da ionosfera terrestre, eles constataram então que, tendo isso nos foguetes, os astronautas voltavam e estavam em melhor saúde, graças a isso.
Nous, notre cerveau, avons besoin de ce magnétisme terrestre.
Nosso cérebro, ele precisa desse magnetismo terrestre.
Donc, il y a une influence dans ce sens-là.
Então, existe uma influência nesse sentido.
Mais on peut supposer aussi qu'il y a une influence dans l'autre sens, donc nous, sur l'atmosphère.
Mas então nós podemos supor que existe também uma influência no outro sentido, quer dizer, de nós sobre a Terra.
L'influence de l'atmosphère intérieure.
Então a influência da atmosfera interior.
Sur l'atmosphère de la Terre.
Sobre a atmosfera da Terra.
Ici, j'ai représenté deux graphiques où on montre la variation de fréquence du cœur.
Aqui nós mostramos dois gráficos que mostram a variação da frequência do coração.
Quand nous éprouvons une émotion positive comme la reconnaissance.
Quando nós sentimos uma emoção, por exemplo, positiva, como o reconhecimento.
On voit que les variations de fréquence sont très régulières.
Nós vemos que a variação de frequência é muito regular.
Parce que nous sommes dans un état calme et...
Bem, nós estamos num estado calmo e...
Bom. Alors que quand nous sommes dans l'émotion d'une colère...
Ah, mas quando a gente está numa emoção de cólera, de raiva...
Regardez en bas, les variations du cœur se font de manière erratique.
Olha no quadro de baixo, você vê que as irradiações do coração, elas se fazem de uma maneira... como é que é?
Erratique, de manière
désorganisée.
Et donc, ça pourrait être encore un autre impact que nous avons sur l'atmosphère de la Terre.
Então, aqui mostra também um outro impacto que nós temos, que nós fazemos sobre a atmosfera da Terra.
Parce que les ondes de même longueur d'onde s'épousent.
Porque as ondas que têm a mesma longueur ondulação, as ondas que têm a mesma ondulação, elas se casam.
C'est pour ça qu'on dit être sur la même longueur d'onde. C'est parce que ça vient bien se mettre l'une sur l'autre.
Em francês existe a expressão de estar na mesma longueur d'onde, quer dizer, estar na mesma sintonia, né?
Mais donc, si Gaïa, notre Terre, est bien un être évolué, si jamais notre Terre, Gaïa, est un être évolué,
se a nossa Terra for realmente um ser evoluído,
non seulement nos pensées, mais surtout nos émotions ont un impact sur l'eau, la matière, les autres, mais aussi la Terre.
Então, não somente os nossos pensamentos têm um impacto sobre a água, sobre tudo que a gente já citou, mas também sobre a Terra.
Je vais en terminer là, parce que je pense que j'arrive au bout, en disant simplement que le champ magnétique de notre cœur est 5000 fois plus puissant que celui qui vient du cerveau. Le champ magnétique qui vient de notre cœur est 5000 fois plus puissant que celui qui vient du cerveau.
O campo magnético que vem do nosso coração é 5 vezes maior, 5000 vezes maior do que aquele que vem do nosso cérebro.
Montrant que les émotions ont un impact plus fort encore que les pensées.
Mostrando que as emoções têm um impacto ainda maior do que os pensamentos.
Je vous remercie.
Merci Gérard. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Kardec. Retrouvons les questions que les auditeurs nous ont posées. Question d'un auditeur, qu'est-ce que le corps astral ? Le corps astral est ce que les spirites appellent le périsprit. Voyons ce que dit le livre des esprits. Question 93. L'esprit, proprement dit, est-il à découvert ou est-il, comme quelques-uns le prétendent, environné d'une substance quelconque ? L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous. Assez vaporeuse, cependant, pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut. Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme, de même l'esprit, proprement dit, est environné d'une enveloppe que, par comparaison, on peut appeler périsprit. Le lien au périsprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort et la destruction de l'enveloppe la plus grossière, l'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal, mais qu'il peut rendre accidentellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans le phénomène des apparitions. Nous avons maintenant une question qui va nous permettre de préciser plus avant. Qu'est-ce que l'âme ? Il est vrai que c'est une question qui est souvent posée dans les centres spirites, et comme pour beaucoup, nous retrouverons la réponse dans le livre des esprits, que personnellement je relis en permanence, retrouvant sans cesse des compléments de réflexion sur tous les sujets concernant nos pourquoi. La question 134, qu'est-ce que l'âme ? Réponse, un esprit incarné. Qu'était l'âme avant de s'unir au corps ? Réponse, esprit. Les âmes et les esprits sont donc identiquement la même chose ? Oui, les âmes ne sont que les esprits. Avant de s'unir au corps, l'âme est un des êtres intelligents qui peuplent le monde invisible et qui revêtent temporairement une enveloppe charnelle pour se purifier et s'éclairer. Question 135. Y a-t-il dans l'homme autre chose que l'âme et le corps ? Réponse. Il y a le lien qui unit l'âme et le corps. Quelle est la nature de ce lien ? Semi-matériel, c'est-à-dire intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et il le faut pour qu'ils puissent communiquer l'un avec l'autre. C'est par ce lien que l'esprit agit sur la matière et réciproquement. L'homme est ainsi formé de trois parties essentielles. Premièrement, le corps, ou être matériel analogue aux animaux et animé par le même principe vital. Deuxièmement, l'âme, esprit incarné dont le corps est l'habitation. Troisièmement, le principe intermédiaire ou périsprit, substance semi-matérielle qui sert de première enveloppe à l'esprit et unit l'âme et le corps. Tels sont, dans un fruit, le germe, le périsperme et la coquille. Question 136. L'âme est-elle indépendante du principe vital ? Réponse. Le corps n'est que l'enveloppe, nous le répétons sans cesse. Le corps peut-il exister sans l'âme ? Oui, et pourtant, dès que le corps cesse de vivre, l'âme le quitte. Avant la naissance, il n'y a pas encore union définitive entre l'âme et le corps, tandis qu'après que cette union ait été établie, la mort du corps rompt les liens qui l'unissent à l'âme, et l'âme le quitte. La vie organique peut animer un corps sans âme, mais l'âme ne peut habiter un corps privé de la vie organique. Question, quel serait notre corps s'il n'avait pas d'âme ? Réponse, une masse de chair, sans intelligence, tout ce que vous voudrez, excepté un homme. Voyons maintenant cette nouvelle question. L'épitaphe « Repose en paix » sur les pierres tombales est-elle fondée ? Dans le cas contraire, pourquoi ? Une épitaphe, du grec « épi » sur et « taphios » tombeau, est une inscription funéraire placée sur une pierre tombale ou un monument funéraire. Cela peut être un objet donné à une civilisation comme signe de paix. Dans la Grèce antique, l'épitaphe est un genre littéraire. C'est un éloge funèbre. En littérature française, l'épitaphe est aussi un genre littéraire rimé. C'est surtout ce que l'on aimerait inscrire sur la pierre tombale de quelqu'un que l'on admire, ou au contraire, que l'on apprécie guère. Supposée être inscrite sur le tombeau lui-même, une épitaphe peut débuter par « si j'y » ou par la formule plus moderne « ici repose ». On peut penser que le « repose en paix » peut être inscrit lorsque la personne s'est désincarnée à la suite de souffrances, tant physiques que morales, et que la mort correspond à la fin de ces souffrances. Et cette épitaphe peut s'écrire aussi bien pour un croyant que pour un non-croyant, signifiant un repos définitif en paix, aussi bien qu'un repos d'un paradis mérité. Il s'agit là de l'épitaphe le plus courant assorti du fameux sigi. Je vais maintenant vous citer d'autres épitaphes plus littéraires. Celle-ci, Léonidas et ses 300 Spartiates en 480 avant Jésus-Christ. Passant, va dire à Sparte que nous sommes couchés ici dociles à ses ordres. Ou pour Richelieu, qui est né le 9 septembre 1585 et décédé le 4 décembre 1642. Si J, oui, J, par la mort bleue, le cardinal de Richelieu. Et ce qui cause mon ennui, ma pension avec lui. Si J, un fameux cardinal, qui fit plus de mal que de bien, le bien qu'il fit, il le fit mal, le mal qu'il fit, il le fit bien. Une autre, anonyme, au cimetière de Bernac-Débat en France, « J'ai peur, mais quand faut y aller, il faut y aller. » Il se trouve aussi une épitaphe beaucoup plus célèbre que je ne manque pas de vous citer. « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. » Mais là, je vous laisse deviner où elle se trouve. Une nouvelle question d'auditeur. En quoi consiste l'euthanasie? À l'origine, l'euthanasie, tiré du grec « bonne mort », désigne l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie. Dans une acceptation plus contemporaine et plus restreinte, l'euthanasie est décrite comme une pratique visant à provoquer le décès d'un individu atteint d'une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et ou physiques intolérables, particulièrement par un médecin ou sous son contrôle. Pour le catholicisme, dont la doctrine à ce sujet a été rappelée par la lettre encyclique Evangelium Vitae du pape Jean-Paul II en 1995, l'euthanasie est en opposition directe avec le cinquième commandement « Tu ne tueras point ». En conséquence, toute forme d'euthanasie est prohibée. Certains courants du protestantisme ne partagent pas la doctrine catholique sur ce point. Ils soutiennent l'idée que Dieu n'est pas exclusif dans le fait de disposer du droit à la vie. L'homme participe avec Dieu au maintien de la vie. Ainsi, des pays historiquement protestants ont parfois donné un sens légal à l'euthanasie, admis l'euthanasie active ou le suicide assisté. Dans l'islam, l'homme représente l'œuvre divine la plus importante et la plus complexe. Il est la créature qui porte l'empreinte divine et qui représente son pouvoir sur la terre. L'euthanasie active est donc interdite juridiquement, car elle est vue comme un meurtre, même lorsqu'il s'agit du souhait du demandeur en ayant l'intention d'abréger sa souffrance. La seule chose permise est de laisser la personne mourir naturellement. Pour le bouddhisme, la mort n'est pas la fin du continuum de l'esprit d'une personne, et en conséquence, le suicide est déconseillé. D'une manière générale, le bouddhisme considère la suppression de la vie comme un acte négatif. Nous voyons ici que les religions hésitent devant ce sujet, faisant une différence entre l'euthanasie active ou passive. Que dit le livre des esprits? Nous ne trouvons pas le mot « euthanasie » qui est moderne, mais le principe reste le même avec la question 944 à propos du suicide et de la vie. Question 944, l'homme a-t-il le droit de disposer de sa propre vie ? Non, Dieu seul a ce droit. Le suicide volontaire est une transgression de cette loi. Nous pouvons en déduire que nous n'avons pas plus de droits vis-à-vis d'un autre. Question 953. Lorsqu'une personne voit devant elle une mort inévitable et terrible, est-elle coupable d'abréger de quelques instants ses souffrances par une mort volontaire ? Réponse : on est toujours coupable de ne pas attendre le terme fixé par Dieu. Est-on d'ailleurs bien certain que ce terme soit arrivé malgré les apparences ? Et ne peut-on recevoir un secours inespéré au dernier moment ? On conçoit que dans les circonstances ordinaires, le suicide soit répréhensible. Mais nous supposons le cas où la mort est inévitable et où la vie n'est abrégée que de quelques instants. Réponse : c'est toujours un manque de résignation et de soumission à la volonté du Créateur. Quelles sont, dans ce cas, les conséquences de cette action ? Une expiation proportionnée à la gravité de la faute, selon les circonstances, comme toujours. Une nouvelle question qui rejoint un peu celle-là. Que vont faire les esprits qui n'ont pas le choix, qui sont en état végétatif et que l'on décide pour eux l'euthanasie ? Est-ce considéré comme un suicide ? Et pour l'auteur qui le fait, en croyant faire le bien, quelles seront ses dettes ? L'esprit qui n'a pas le choix ne peut être responsable de ce qu'il n'a pas commis. Mais il en est tout autrement pour celui qui pratique l'euthanasie, car il s'agit là d'un meurtre et Dieu seul a le droit sur la vie. N'oublions pas que la fin de vie est acceptée par l'intéressé avant son incarnation. C'est là aussi porter atteinte aux lois divines. Quelles que soient les circonstances, respectons le « tu ne tueras point ». Donner la mort ne saurait être un acte de charité, et une personne qui met fin à la vie d'un autre, même s'il souffre, ne saurait prétendre le faire pour son bien et par charité. Il aura donc à rendre compte de son acte. Mais il ne nous est pas permis de juger de la grandeur de sa responsabilité. Et d'ailleurs, qui peut dire que la mort ne devait pas intervenir dans des temps très proches ? Chers auditeurs de Radio Kardec, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles questions.
Nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos partenaires. Aujourd'hui, il s'agit d'un communiqué de l'association Cœur SDF Liège, relayé par le Centre d'études spirites Allan Kardec de Bruxelles. L'hiver approche. L'hiver, c'est signe de froid et de beaucoup de souffrance pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un foyer et de rester bien au chaud. Alors, pensons à eux avec beaucoup de tendresse et faisons chacun de nous un petit geste simple mais qui compte beaucoup pour eux. L'association Cœur SDF à Liège distribue chaque samedi de la soupe aux plus démunis et ils veulent aider encore plus en distribuant des chaussettes, bonnets, écharpes, gants et couvertures. C'est un travail magnifique, mais qui a besoin de l'aide de tous pour continuer. Si vous voulez aider, prenez contact avec notre frère Martial de la Fédération Spirite de la province de Liège en formant depuis la Belgique le 0493 18 51 95 ou avec Sarah au 0494 15 05 24 ou mieux encore par courriel à l'adresse suivante coeurdf@gmail.com. Pour Liège, ou si vous habitez vous seul, apportez les chaussettes, bonnets, écharpes, gants, couvertures au siège social du CESAC à la rue Louis App 134 à Etterbeek, les samedis de 17h30 à 18h20. Merci de votre participation. Nous voici arrivés à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En Belgique tout d'abord. Eh bien, pour la seconde fois aura lieu la rencontre pour jeunes et enfants spirites. Cet événement, unique en Europe, permet aux spirites les plus jeunes d'avoir leur événement propre, c'est-à-dire un séminaire qui leur est destiné. Pour eux, pas de longues conférences, mais des jeux passionnants et divertissants qui leur permettent d'aborder et de comprendre certaines idées du spiritisme tout en s'amusant. Le thème de cette année est « L'enfant pour l'avenir ». Les enfants découvriront le monde tel qu'il le sera dans le futur, un monde plus humain, plus juste et moralement plus élevé. Ils apprendront aussi et surtout que ce monde ne se bâtira pas tout seul, qu'il aura besoin d'eux et qu'ils pourront être les acteurs de ce changement. Des activités, conférences et activités sur l'éducation seront organisées pour les parents. Les secondes rencontres pour les jeunes enfants Spirit du Bélux auront lieu cette année le dimanche 20 novembre 2011 à 13h au siège social de la Fédération Spirit de la province de Liège en Belgique, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Renseignements et inscriptions via la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou via courriel à l'adresse suivante fspl@spirit.be. Au Grand-Duché du Luxembourg et en France. La majorité des événements programmés d'une part par nos collègues du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg et en seconde part par le mouvement Spirit francophone ainsi que ses divers partenaires viennent juste de se terminer, notamment le deuxième symposium de médecine et spiritualité du Luxembourg et le quatrième congrès francophone de médecine et spiritualité qui avait lieu à Paris le même week-end du 29 et 30 octobre 2011, mais nous en reparlerons lors d'une prochaine émission. Pour la France, sachez toutefois que le dimanche 20 novembre 2011 à 15h, que nos amis de l'Association parisienne d'études spirites recevront au sein de leur siège social 22 rue des Létchères à 94 300 Vincennes, nos frères Joël Hury et Jean-Luc Royan autour du thème de la transcommunication instrumentale. Ils vous parleront de l'évolution des travaux de l'IFRES, qui n'est autre que l'Institut français de recherche et d'expérimentation spirit. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708 ou via courriel à l'adresse suivante apes.asso@gmail.com ou directement sur le site de l'association www.apes.asso.fr. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.